Chapitre 18. La nature d'un régime sain. Étant donné que les glucides nous font grossir, il est logique que la meilleure, voire la seule manière de ne pas prendre de poids, soit d'éviter les aliments riches en glucides, et pour celles et ceux qui sont déjà en surpoids, que la meilleure, voire la seule manière de retrouver la ligne, soit de faire de même. Cela ressort de la simple logique. Pourtant, comme les médecins croient que ce type de régime fait plus de mal que de bien, il n'est pas aisé pour le grand public de se risquer à croire autre chose. Voici les trois arguments principaux avancés de manière récurrente depuis les années 1960 à l'encontre des régimes hypoglucidiques. Le premier argument, ces régimes ne sont rien d'autre qu'une escroquerie, puisqu'ils prétendent que l'on peut perdre du poids sans devoir manger moins ni faire de l'exercice physique, ce qui va à l'encontre des principes de la thermodynamique et du modèle incontestable de l'équilibre entre les calories consommées et les calories dépensées. L'argument numéro 2. Ces régimes sont déséquilibrés parce qu'ils limitent la consommation d'une catégorie de nutriments tout entière, les glucides, tandis que le premier principe d'une nourriture saine est de respecter l'équilibre entre les grands groupes d'aliments. Le troisième argument, ces régimes étant riches en matières grasses et particulièrement en graisses saturées, ils augmentent le cholestérol et en conséquence le risque de maladies cardiovasculaires. Dans ce chapitre, nous allons examiner ces critiques une par une pour voir si elles résistent à l'examen. L'argument de l'escroquerie. Que dire encore à ce propos? Une grande partie de l'hostilité à l'égard des régimes à teneur réduite en glucides provient, depuis toujours, de la conviction que les partisans de ces régimes veulent en réalité escroquer un public crédule. Perdre du poids en mangeant autant que l'on veut? Impossible. Mais nous avons vu au fil des chapitres précédents ce qui se passe lorsque l'on réduit sa consommation de glucides et pourquoi cela entraîne une perte de poids, et notamment une perte de graisse corporelle, indépendamment du nombre de calories de matière grasse ou de protéines que l'on consomme par ailleurs. Et nous savons aussi que les lois de la physique n'ont rien à voir avec cela. L'argument du déséquilibre nutritionnel. Cet argument manque passablement de fondement si les féculents, les glucides raffinés et les sucres nous font grossir. Car comment pourrait-on plaider en faveur d'une stratégie autre que la suppression de ces aliments pour régler le problème? Lorsque les médecins nous conseillent d'arrêter de fumer parce que les cigarettes provoquent cancer du poumon, emphysème et maladies cardiovasculaires, ils ne se demandent pas si la vie nous paraîtra moins belle sans tabac. Ils veulent que nous soyons en bonne santé et partent du principe qu'avec le temps, nous nous habituerons à cette perte. Nous savons sans aucun doute possible que certains glucides nous font grossir. Il est probable qu'il provoque même un grand nombre de maladies chroniques, comme nous le verrons plus loin. Il n'est donc que logique de les supprimer. Si pour perdre du poids vous réduisez toutes les calories équitablement, ou si vous diminuez surtout les calories issues des lipides, comme on nous le recommande couramment, vous mangerez en conséquence moins de matières grasses et de protéines qui, pourtant, ne sont pas adipogènes, et davantage de glucides, qui, eux, le sont. Non seulement ce régime risque donc fort de ne pas être très efficace, voire pas efficace du tout, mais de plus, vous aurez faim en permanence. Si au contraire vous ne limitez que les glucides, vous pourrez augmenter s'il le faut votre consommation de protéines et de matières grasses, puisque ces nutriments n'influent pas sur l'accumulation de graisse corporelle. Dès 1936, le médecin danois Per Hansen faisait observer que c'est là l'un des principaux avantages de la restriction glucidique. Un mode d'alimentation qui permet de perdre du poids sans souffrir de la faim n'est-il pas beaucoup plus facile à respecter qu'un autre qui exige des privations cruelles pour une durée indéterminée? Par ailleurs, l'argument selon lequel un régime qui limite les glucides adipogènes serait trop pauvre en nutriments essentiels, vitamines, minéraux, acides aminés, etc., ne résiste pas à un examen sérieux. Tout d'abord parce que les glucides à éviter sont ceux qui font grossir, mais pas les légumes verts ni les salades. À elle seule, cette raison devrait venir à bout de toute inquiétude concernant d'éventuels risques de carence en vitamines ou en minéraux. Mais il faut également savoir que les glucides adipogènes concernés par la restriction, c'est-à-dire les féculents, les glucides raffinés et les sucres, sont de toute façon extrêmement pauvres en nutriments essentiels. Même si vous croyez que pour perdre du poids, il vous faut absolument réduire votre apport calorique. Ces aliments glucidiques adipogènes sont justement pour cette raison des candidats idéaux à la restriction. Car si vous suivez un régime hypocalorique classique et limitez par exemple d'un tiers les calories sur l'ensemble des aliments, vous limiterez aussi d'un tiers votre apport en nutriments essentiels, alors qu'un régime qui supprime les sucres, la farine, les pommes de terre et la bière, mais autorise la viande, les œufs et les légumes verts à volonté, apporte tous les nutriments essentiels, un argument déjà avancé dans les années 1960 et 1970 par le nutritionniste britannique John Yatkin, et peut même en apporter davantage puisqu'il nous permet de manger plus de ces derniers aliments et non moins. Depuis les années 1960, époque à laquelle émergea l'idée que les produits animaux pouvaient nuire à la santé parce qu'ils contiennent des graisses saturées, les nutritionnistes se sont généralement abstenus de faire remarquer que la viande contenait tous les acides aminés vitaux, toutes les graisses essentielles, ainsi que 12 des 13 vitamines essentielles dans des proportions étonnamment élevées. Pourtant, c'est la stricte vérité. La viande est une source particulièrement concentrée de vitamines A et E, ainsi que de l'ensemble des vitamines B. Mais il y a plus important encore. Les vitamines B12 et D ne sont présentes que dans les produits animaux. Notons cependant qu'il est possible de produire suffisamment de vitamine D grâce à une exposition normale au soleil. La vitamine C est la seule vitamine à n'être présente qu'en quantité assez limitée dans les produits animaux. Mais il semblerait que plus l'on consomme de glucides adipogènes, plus on a un besoin important de cette vitamine, ainsi que de vitamine B. Les vitamines B sont nécessaires pour que nos cellules métabolisent le glucose. Cela signifie que plus nous consommons de glucides, plus nous brûlons de glucose au lieu d'acide gras, et plus nous avons besoin d'un apport élevé en vitamine B. La vitamine C s'introduisant dans les cellules, là où le besoin s'en fait sentir, selon le même mécanisme que le glucose, plus le taux de sucre sanguin est élevé, plus il y a de glucose à s'introduire dans les cellules au détriment de la vitamine C. L'insuline inhibe également la fixation de la vitamine C au niveau des reins, ce qui veut dire que lorsque nous mangeons des glucides, notre corps excrète de la vitamine C par voie urinaire au lieu, comme cela devrait être le cas, de la retenir et d'en tirer profit. Si nous n'ingérions pas de glucides, tout porte à croire que nos besoins en vitamine C seraient intégralement couverts par les produits animaux. Ceci est d'ailleurs assez logique du point de vue de l'évolution de notre espèce. En effet, toute population humaine vivant assez loin de l'équateur pour connaître de longs hivers pouvait, pendant les périodes glaciaires par exemple, passer des mois, voire même des années sans trouver autre chose à manger que le produit de sa chasse. Dès lors, l'idée qu'il ait pu falloir à ces populations du jus d'orange ou des légumes frais pour répondre à leurs besoins en vitamine C apparaît totalement absurde. À noter également la bonne santé de certaines populations isolées de chasseurs-cueilleurs qui ne mangeaient pourtant pratiquement pas de glucides et absolument pas de légumes ni de fruits. Les glucides ne sont pas indispensables à la bonne santé de l'être humain. À l'instar de nombreux partisans de la restriction glucidique, on peut aussi exprimer cela en disant qu'il n'existe pas de glucides essentiels. Si les nutritionnistes disent souvent que 120 à 130 grammes de glucides sont une composante indispensable d'un régime sain, c'est parce qu'ils confondent ce que notre cerveau et notre système nerveux central brûlent pour produire de l'énergie lorsque nous avons une alimentation riche en glucides, à savoir 120 à 130 grammes par jour, avec nos besoins nutritionnels réels. Lorsque notre alimentation ne contient pas de glucides, notre cerveau et notre système nerveux central sont alimentés par des molécules appelées cétones. Ces cétones sont synthétisées par le foie à partir des graisses que nous mangeons, des acides gras mobilisés dans le tissu adipeux suite à une alimentation pauvre en glucides et au faible taux d'insuline qui en résulte, et même à partir de certains acides aminés. Lorsque nous mangeons très peu de glucides, ce sont les cétones qui fournissent environ les trois quarts de l'énergie dont notre cerveau a besoin. C'est pourquoi les régimes très pauvres en glucides sont appelés des régimes cétogènes. Le reste de l'énergie dont notre cerveau a besoin provient du glycérol, également libéré par le tissu adipeux lors de la décomposition des molécules de triglycérides, ainsi que du glucose synthétisé par le foie à partir des acides aminés contenus dans les protéines. Comme un régime exempt de glucides adipogènes comprend en revanche de grandes quantités de matières grasses et de protéines, il n'entraîne donc pas de pénurie de carburant pour le cerveau. Lorsque nous brûlons notre propre graisse corporelle, ce qui est notre but après tout, notre foie convertit de son côté une partie de cette graisse en cétone que notre cerveau va utiliser pour produire de l'énergie. C'est un processus qui se produit naturellement chaque fois que nous sautons un repas et, plus systématiquement, durant les heures qui séparent le dîner ou le dernier encas du soir et le petit déjeuner du jour d'après, laps de temps pendant lequel notre organisme fonctionne, ou en tout cas est censé fonctionner, grâce à la graisse que nous avons stockée pendant la journée. À mesure que la nuit avance, notre corps mobilise de plus en plus de graisse et notre foie augmente sa production de cétones. Au matin, nous nous trouvons dans un état qualifié de cétose, ce qui signifie que notre cerveau fonctionne principalement en brûlant des cétones. C'est ce phénomène qui se produit lorsque l'on suit un régime qui limite l'apport des glucides à moins d'une 60aine de grammes par jour. Selon certains chercheurs, le cerveau et le système nerveux central fonctionneraient même plus efficacement grâce aux cétones que grâce au glucose. En fait, cette cétose bénigne peut être définie comme étant l'état normal du métabolisme humain lorsque l'on supprime de son alimentation les glucides qui en sont restés absents pendant 99,9% de l'histoire de l'humanité. En tant que telle, la cétose est sans doute non seulement un état naturel, mais même un état particulièrement bénéfique pour la santé. Le fait que, depuis les années 1930, des médecins aient prescrit des régimes cétogènes pour traiter et même guérir des cas d'épilepsie infantile totalement incurables par d'autres moyens, va dans le sens de cette conclusion. Par ailleurs, des chercheurs ont récemment commencé à étudier l'aptitude des régimes cétogènes à guérir également l'épilepsie chez l'adulte, mais aussi le cancer, une idée qui, comme nous le verrons, est loin d'être aussi absurde qu'elle semble l'être au premier abord. L'argument des maladies cardiovasculaires. Le risque cardiovasculaire est le refrain entonné dans toutes les discussions portant sur les risques et les bénéfices des régimes pauvres en glucides. Si, à l'origine, les nutritionnistes étaient hostiles à la restriction glucidique parce qu'ils croyaient qu'elle ne pouvait pas tenir ce qu'elle promettait, c'est l'argument des maladies cardiovasculaires qui les a confortés dans leur hostilité et les a totalement fermés à toute preuve du contraire. Leur crainte est que ceux qui adoptent la logique des régimes hypoglucidiques remplacent les glucides qu'ils considèrent, eux, comme étant bons pour le cœur, les brocolis, le pain complet, les pommes de terre, etc., par de la viande, du beurre, des œufs et éventuellement du fromage, et ils n'ont pas forcément tort. Ces derniers étant tous des sources de graisse saturée, un régime qui encourage leur consommation augmente, selon leur logique à eux, le cholestérol, et notamment le LDL, lipoprotéine de basse densité, couramment appelé « mauvais cholestérol », et donc le risque d'infarctus et de mort prématurée. C'est ce type de raisonnement qui avait amené Jean Mayer à parler de massacre et qui fait que de nos jours, médecins et organisations médicales persistent à croire que suivre un régime hypoglucidique est imprudent, ou font en tout cas comme si. Pourtant, il y a de nombreuses raisons de croire que c'est faux. La première notion qu'il convient de remettre en question est l'idée même qu'un régime qui fait mincir en supprimant les glucides adipogènes est également un régime qui risque de provoquer des maladies cardiovasculaires. Souvenez-vous de l'argument de Jean Mayer. Lorsque nous mangeons moins de glucides, nous remplaçons ces calories par des lipides. Ce qui est vrai. Dans l'alimentation moderne, les protéines ne sortent généralement pas d'une fourchette étroite, entre 15 et 25% des calories, tandis que les lipides et les glucides se remplacent mutuellement. Manger moins des uns signifie manger plus des autres. Et si les uns provoquent des maladies cardiovasculaires, on en déduit que les autres préviennent ces maladies, pour ainsi dire, par définition. C'est pour cette raison que les glucides, y compris le pain, les pâtes, les pommes de terre ou le sucre, ont été estampillés « bons pour le cœur » et que les autorités de santé nous ont recommandé d'en manger davantage à partir du moment où elles se sont ralliées à la thèse selon laquelle manger des matières grasses bouchait nos artères. Cela n'aurait pas grand-chose à voir avec les dangers supposés des graisses saturées, si ce n'était qu'il existe une relation bien documentée entre l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Souvenons-nous des « gros cardiaques » de Blake Donaldson. Les hommes d'âge moyen dotés d'un gros ventre ont toujours été des candidats évidents à l'infarctus. L'embonpoint, tout du moins au-dessus de la taille, et les maladies cardiovasculaires vont de pair. D'ailleurs, plus une personne est en surpoids, ou en tout cas, plus elle est obèse, plus elle risque de contracter pratiquement toutes les maladies chroniques majeures. C'est pourquoi les médecins pressent toujours leurs patients en surpoids de perdre du poids, et ne serait-ce qu'un peu au moins. Nous sommes donc en présence d'un paradoxe. Les glucides nous font grossir, c'est incontestable, et les lipides, ou en tout cas les graisses saturées, sont une cause de maladies cardiovasculaires, c'est ce qu'affirment les autorités médicales. Le régime qui nous permet de mincir naturellement serait alors en même temps celui qui augmente notre risque cardiovasculaire ? Perdre du poids nous exposerait à un risque accru de maladies cardiovasculaires, au lieu du contraire ? Ce paradoxe suggère que seule une des deux affirmations peut être correcte. Soit les glucides nous font grossir, soit les matières grasses sont une cause de maladies cardiovasculaires. Et le fait que les glucides, et particulièrement les glucides facilement assimilables et les sucres, nous fassent bel et bien grossir, suggère que ces mêmes glucides sont également la cause alimentaire probable des maladies cardiovasculaires. Et donc l'obsession contemporaine des matières grasses en général, et des graisses saturées en particulier, n'a tout bonnement pas lieu d'être. Les autorités de santé qui répètent imperturbablement que les graisses saturées provoquent des maladies cardiovasculaires tentent de contourner ce paradoxe. Le régime qui nous permet de mincir naturellement est en même temps celui qui augmente notre risque cardiovasculaire en accusant les matières grasses d'être également la cause des problèmes de poids. Elles avancent que les lipides étant les nutriments les plus denses en énergie, c'est pour cela qu'ils nous font grossir. En effet, 1 g de lipides contient 9 calories contre 4 pour 1 g de protéines ou de glucides. En raison de cette densité énergétique supérieure, les lipides sont supposés nous amener plus facilement à trop manger que les glucides et les protéines. En mangeant 10 g de matière grasse, on absorbe 50 calories de plus qu'en mangeant 10 g de protéines ou de glucides. Et dans cette logique, l'organisme ne s'intéresserait qu'au nombre de grammes, de quoi que ce soit, et non aux nutriments ou à la quantité de carburant que lui apportent ces 10 grammes. C'est une conception étonnamment simpliste. Peut-on vraiment croire que des centaines de millions d'années d'évolution aient abouti à des organismes déterminant la quantité de carburant et de nutriments essentiels qu'ils consomment en ne se fondant que sur le poids ou sur la densité énergétique des aliments ou sur le volume stomacal occupé par la nourriture à digérer ? Non seulement c'est difficile à croire, mais ça a, de plus, toujours été réfuté par les preuves expérimentales. Jusque dans les années 1960, les régimes riches en lipides et pauvres en glucides ont prouvé à maintes reprises qu'ils permettaient de perdre du poids, non d'en gagner. Mais dans les années 1970, les matières grasses acquirent le statut de coupable incontesté dans le domaine de la nutrition, et les autorités de santé purent alors avancer que les graisses saturées bouchaient nos artères et qu'en général, les matières grasses nous faisaient grossir. En 1984, ce dogme du low fat se trouva officiellement gravé dans le marbre lorsque le National Heart, Lung and Blood Institute, Institut américain de cardiologie, pneumologie et hématologie, ou NHLBI, lança une campagne massive de santé publique pour convaincre la population des États-Unis que les régimes allégés en matière grasse apportaient une protection significative contre les maladies coronariennes. Curieusement, les officiels du NHLBI étaient moins certains des liens entre matière grasse et maladies cardiovasculaires qu'entre matière grasse et obésité. La citation ci-après montre comment deux des experts les plus en vue dans les domaines du cholestérol et des troubles cardiaques, Nancy Ernst du NHLBI et Robert Levy, ancien directeur du dit NHLBI, présentaient leur point de vue à l'époque. Certains éléments indiquent qu'un régime hypolipidique ferait baisser le taux de cholestérol sanguin. On ne dispose pas de preuves définitives que cette baisse soit indépendante d'autres changements simultanés de régime alimentaire. Ce que l'on peut dire en revanche avec certitude, c'est qu'étant donné qu'un gramme de matière grasse fournit environ 9 calories, contre environ 4 calories pour 1 gramme de protéines ou de glucides, les matières grasses sont une des principales sources de calories alimentaires aux États-Unis. Il ne fait donc aucun doute que toute tentative de diminution ou de stabilisation pondérale doit mettre l'accent sur les graisses contenues dans les aliments. C'est ainsi que les Américains se sont vus enjoindre de manger moins de matières grasses, notamment moins de graisses saturées. Et ils l'ont fait. Selon les statistiques du département de l'agriculture des États-Unis, la consommation de graisses saturées a constamment baissé au cours des années qui ont suivi. Pourtant, en moyenne, loin de perdre du poids, ils ont au contraire grossi. Qui plus est, l'incidence des maladies cardiovasculaires n'a pas diminué, contrairement aux attentes générées par la croyance selon laquelle manger moins de matières grasses ou moins de graisses saturées allait changer les choses. Ce phénomène a été rapporté dans de nombreuses études, la dernière ayant été publiée en novembre 2009 par Elena Kuklina et ses collègues des Centers for Disease Control and Prevention, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, dans The Journal of the American Medical Association. Dans ce rapport, les auteurs insistent sur le fait que bien que le nombre d'Américains présentant des taux élevés de cholestérol LDL ait récemment diminué, comme on est en droit de l'espérer dans un pays où l'on évite au maximum les graisses saturées et où l'on dépense chaque année des milliards de dollars en médicaments anti-cholestérol, le nombre d'infarctus, lui, n'a pas baissé. Au lieu d'entraîner au niveau national une baisse du surpoids et des maladies cardiovasculaires, l'engagement officiel en faveur des régimes pauvres en matières grasses et riches en glucides coïncide au contraire avec la double épidémie d'obésité et de diabète qui augmente doublement le risque cardiovasculaire. Ce constat devrait amener toute personne sensée à mettre en doute les hypothèses sur lesquelles se fonde cet engagement. Malheureusement, ce n'est généralement pas ainsi que réagit l'être humain lorsqu'il est confronté à l'évidence que l'une de ses croyances les plus profondément ancrées s'avère fausse. Et ce n'est en tout cas pas ainsi que les institutions et les responsables politiques réagissent face à une telle dissonance cognitive. Pour l'instant, je me contenterai de dire que le lien de cause à effet entre obésité et maladie cardiovasculaire et l'épidémie d'obésité et de diabète qui débute au moment où les autorités de santé commencent à recommander de manger moins de matières grasses, moins de graisses saturées et plus de glucides, sont de bonnes raisons de douter que ce sont des matières grasses et des graisses saturées dont nous devons nous inquiéter. Une autre raison de mettre en doute la croyance selon laquelle les graisses saturées sont mauvaises pour la santé est que les preuves expérimentales soutenant cette croyance se font toujours attendre. Je sais que c'est difficile à croire étant donné la force et l'assurance avec lesquelles on nous répète depuis longtemps que les graisses saturées tuent. Pourtant, en 1984, lorsque le National Heart, Lung and Blood Institute, NHLBI, lança sa campagne massive de santé publique, une divergence apparut entre ce que l'on nous répétait et ce que les faits indiquaient réellement. À cette époque, les experts du NHLBI avaient conçu des doutes sur le lien censé exister entre matière grasse et maladie cardiovasculaire. Et il y avait de bonnes raisons à cela. En effet, l'Institut avait investi 115 millions de dollars dans un gigantesque essai clinique devant porter sur presque une décennie afin d'étudier l'hypothèse selon laquelle une consommation moindre de graisses saturées limiterait l'incidence des maladies cardiovasculaires. Or, aucun infarctus n'avait pu être évité. Ces résultats auraient pu justifier l'abandon total de cette hypothèse, mais comme le NHLBI avait par ailleurs dépensé 150 millions de dollars pour tester les bienfaits d'un médicament anticholestérol, essai qui, lui, s'était révélé positif, les administrateurs de l'Institut décidèrent de poser un acte de foi comme l'un d'eux, Basil Rifkind, devait l'expliquer plus tard. Ils avaient passé 20 ans et dépensé une somme d'argent exorbitante à essayer de démontrer que les régimes anticholestérol pauvres en matière grasse pouvaient prévenir les maladies cardiovasculaires, et jusque-là, ils avaient échoué. Réessayer serait revenu trop cher et aurait pris au moins 10 ans de plus, même si l'Institut pouvait se le permettre. Mais dès lors qu'ils avaient pu prouver irréfutablement que le fait de diminuer le cholestérol grâce à un médicament sauvait des vies, ils s'autorisèrent à faire le pari qu'un régime anticholestérol pauvre en matière grasse pouvait en faire autant. « La perfection n'est pas de ce monde », reconnut Rifkind. « Lorsqu'il n'y a pas de preuve définitive, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. » Si l'ambition de départ était de taille, les résultats s'étaient avérés décevants. La recherche a continué à démontrer que les médicaments anticholestérol pouvaient prévenir les infarctus et, apparemment, permettre à certaines personnes, au moins à celles qui ont un risque particulièrement élevé de subir un infarctus, de vivre plus longtemps, mais on attend toujours les preuves d'une efficacité comparable des régimes allégés en matière grasse ou en graisse saturée. Ici, l'un des problèmes est que lorsqu'une personne spécialiste ou pas décide d'analyser les données d'un problème qui lui tient à cœur, et je ne m'exclus pas moi-même, elle a tendance à ne voir que ce qu'elle veut voir. Ce comportement, humain, trop humain, ne mène hélas pas à des conclusions très fiables. Pour contourner ce problème, au moins dans le domaine médical, une organisation internationale a été créée au milieu des années 1990 dans le but spécifique d'analyser la littérature scientifique de façon impartiale. La Collaboration Cochrane, c'est son nom, est aujourd'hui largement considérée comme l'une des sources d'évaluation les plus fiables de l'efficacité réelle des mesures de santé, qu'il s'agisse d'un régime, d'une intervention chirurgicale, d'une technique de diagnostic, etc. En 2001, la Collaboration Cochrane mena une évaluation des bienfaits d'une alimentation allégée en matière grasse ou en graisse saturée. En tout, les auteurs qui étaient remontés jusque dans les années 1950 ne parvinrent à trouver dans l'ensemble de la littérature médicale que 27 essais cliniques ayant été menés avec suffisamment de sérieux pour que l'on puisse déterminer de façon fiable si le fait de modifier l'apport en lipides d'un régime alimentaire pouvait prévenir les infarctus et les décès prématurés. Parmi ces essais, un grand nombre avait en fait été menés pour étudier si ce type de régime avait un impact sur d'autres maladies, cancer du sein, hypertension, polype ou calcul biliaire. Mais comme les chercheurs qui réalisaient ces études avaient consigné les cas où leur sujet avait subi un infarctus et le cas échéant y avait succombé, les rapports purent également servir à évaluer ces questions. Les résultats s'avérèrent peu concluants. En dépit de décennies d'efforts, et bien que des milliers de personnes aient participé à des études randomisées, rapportèrent les auteurs de la Collaboration Cochrane, on ne dispose jusqu'à présent que de résultats limités et peu concluants concernant les effets d'une modification de la consommation de graisse totale, saturée, monoinsaturée ou polyinsaturée, sur la morbidité ainsi que la mortalité cardiovasculaire. Depuis ce rapport de la Collaboration Cochrane, les résultats de l'essai le plus large et le plus cher jamais mené dans le domaine de la nutrition, la Women's Health Initiative, Initiative pour la santé des femmes, déjà mentionnée au chapitre 2, ont été publiés. Cet essai avait pour but de tester les bienfaits et les risques que comporte une limitation de la consommation de matières grasses et de graisses saturées pour les femmes, une population peu étudiée jusque-là. 49 000 femmes d'âge moyen avaient été recrutées pour cette étude sur l'impact de l'alimentation sur la santé et 20 000 d'entre elles avaient été choisies de façon aléatoire pour suivre un régime allégé en matières grasses et en graisses saturées, comportant moins de viande, plus de légumes, de fruits frais et de céréales complètes. Précisons que si cet essai a pu être financé, ce n'est pas parce que les autorités de santé souhaitaient remettre publiquement en question le fait que manger moins de matières grasses pouvait prévenir les maladies cardiovasculaires, mais parce que les essais précédents n'avaient pas concerné les femmes et que ces autorités subissaient des pressions pour que la santé féminine soit prise au sérieux autant que celle des hommes. Au bout de 6 ans de régime, les 20 000 femmes tirées au sort avaient réduit leur consommation de graisse totale ainsi que de graisse saturée de respectivement un quart. Leur taux de cholestérol total ainsi que de cholestérol LDL n'était que très légèrement inférieur à celui des 29 000 autres femmes qui, elles, pouvaient manger ce qu'elles voulaient. Et le rapport final constata que le régime hypolipidique n'avait eu aucun effet positif sur les maladies cardiovasculaires, ni sur les AVC, ni sur les cancers du sein ou du côlon, ni même sur la quantité de graisse corporelle. La réduction de la consommation de graisse totale et de graisse saturée et le remplacement des aliments gras par des fruits, des légumes et des céréales complètes n'avaient absolument aucun effet positif manifeste. Tout admirable et sensé qu'ait pu paraître en 1984 l'attitude volontariste des autorités de santé, nous voulons croire que « il faut faire de son mieux avec ce qu'on a, il y a de fortes chances que… » etc., elle n'en pose pas moins de nombreux problèmes. Notamment le fait qu'on nous ait prodigué, pour notre plus grand bien, certains conseils qui allaient malheureusement s'avérer plus nuisibles que bénéfiques. Dans le cas présent, on nous a recommandé de manger moins de matières grasses et plus de glucides, mais au lieu d'éviter les maladies cardiovasculaires et de perdre du poids, nous connaissons toujours le même taux de maladies cardiovasculaires, assorti, de surcroît, d'une augmentation phénoménale de l'obésité et du diabète. Mais il y a un problème encore plus insidieux. Tous les acteurs impliqués, recherche, corps médical, autorités de santé publique, associations de santé, se sont engagés à un stade précoce des travaux scientifiques, sans doute même au stade où ils en savaient le moins, sur de simples convictions. Mais ils se sont néanmoins tellement investis dans ces convictions que toutes les preuves du contraire apportées depuis n'ont pas suffi à les convaincre qu'ils avaient fait fausse route. Aussi, lorsque des essais comme la Women's Health Initiative ont attesté que manger moins de matières grasses et de graisses saturées n'avait pas d'effet positif sur la santé, en tout cas pas chez les femmes, ces professionnels n'ont-ils pas réagi comme ils l'auraient dû, c'est-à-dire en reconnaissant qu'ils s'étaient fourvoyés depuis le début. Ils ont au contraire prétendu que c'était la façon dont l'étude avait été menée qui était discutable et que les résultats qui en découlaient pouvaient donc être ignorés, une attitude risquant de porter préjudice à leur crédibilité, et ce, à juste titre. C'est notamment ce qui se passa avec les graisses saturées. L'hypothèse selon laquelle les graisses saturées bougent nos artères parce qu'elles augmentent notre taux de cholestérol est un héritage de l'état des connaissances d'il y a 30 ou 40 ans. À cette époque, il y avait peu de preuves pour soutenir cette hypothèse, et cela n'a pas changé depuis. Mais elle passe néanmoins depuis lors pour une idée de bon sens, et ce pour une raison simple. Les taux de cholestérol total et de LDL sont les deux facteurs de risque pouvant être modifiés de la façon la plus manifeste par les médicaments anti-cholestérol, et notamment par les statines, qui, soit dit en passant, rapportent aujourd'hui chaque année des milliards de dollars à l'industrie pharmaceutique. Ces médicaments préviennent les infarctus et peuvent sauver des vies. Le credo affiché aujourd'hui est donc le même qu'en 1984. Si un médicament qui fait baisser le cholestérol, et notamment le cholestérol LDL, peut prévenir les maladies cardiovasculaires, nul doute qu'un régime faisant baisser le cholestérol, et notamment le cholestérol LDL, puisse également prévenir les maladies cardiovasculaires, tandis qu'un régime qui augmente le cholestérol ne peut que favoriser ces mêmes maladies. Les graisses saturées augmentent à la fois le cholestérol total et le cholestérol LDL. Elles provoquent donc obligatoirement des maladies cardiovasculaires, tandis que tout régime allégé en graisses saturées ne peut que les prévenir. Cet acte de foi apparemment logique présente néanmoins des faiblesses notables. Tout d'abord, l'effet d'un médicament et l'effet d'un régime sont deux choses totalement différentes. À l'instar des médicaments anti-cholestérol, le fait de modifier la composition nutritionnelle de notre alimentation a de nombreux effets sur l'ensemble de notre organisme, ainsi que sur différents facteurs de risque cardiovasculaire. Qu'un type particulier de matière grasse fasse augmenter le cholestérol LDL, contrairement, disons, à d'autres types de matière grasse ou aux glucides, ne signifie donc pas qu'il fasse également augmenter notre risque cardiovasculaire, ni qu'il soit malsain pour quelque autre raison. L'introduction dans le raisonnement d'une relation de cause à effet est une autre faiblesse de cette approche. Le fait que les statines fassent baisser le cholestérol LDL et préviennent les maladies cardiovasculaires n'implique pas nécessairement qu'elles préviennent les maladies cardiovasculaires parce qu'elles font baisser le LDL. Prenons l'exemple de l'aspirine. C'est un médicament qui soigne les maux de tête et prévient les maladies cardiovasculaires. Mais il ne viendrait à l'idée de personne d'affirmer pour autant que l'aspirine prévient les maladies cardiovasculaires parce qu'elle soigne les maux de tête. L'aspirine, comme les statines, a par ailleurs d'autres effets. N'importe lequel d'entre eux pourrait être à l'origine du fait que les deux médicaments préviennent les infarctus. Lorsque l'on considère tous les effets des matières grasses et des glucides issus de notre alimentation, ainsi que tous les facteurs de risque cardiovasculaire ayant été découverts à mesure que la science évoluait depuis les années 1970, un tableau radicalement différent se fait jour. Commençons par ce que l'on sait des triglycérides. Ils constituent également un facteur de risque cardiovasculaire. Plus notre taux de triglycérides, molécules qui sont transportées par les mêmes lipoprotéines que le cholestérol, est élevé, plus nous courons le risque d'avoir un infarctus. Ceci n'est mis en doute par personne. Or, ce sont les glucides que nous ingérons qui augmentent notre taux de triglycérides. Les graisses, qu'elles soient ou non saturées, n'ont aucune incidence sur eux. Autrement dit, si vous remplacez les graisses saturées par des glucides, si vous remplacez par exemple les œufs au bacon du petit-déjeuner par, disons, des cornflakes, du lait écrémé et une banane, il se peut que votre cholestérol diminue, mais vos triglycérides, eux, augmenteront. La diminution de votre cholestérol, qui pourrait être une bonne chose, j'expliquerai brièvement ci-après pourquoi je dis « pourrait », sera alors compensée par un phénomène nocif, l'augmentation de vos triglycérides, c'est un fait qui n'a pas été mis en doute depuis les années 1960. Un faible taux de cholestérol HDL, lipoprotéine de haute densité, le bon cholestérol, est également un facteur de risque cardiovasculaire. Le risque d'infarctus est beaucoup plus important chez un individu qui présente un faible taux de HDL que chez un autre dont le taux de cholestérol total ou HDL est élevé. Chez les femmes, le taux de HDL permet même de prédire une future maladie cardiovasculaire avec un tel degré de précision qu'il est de facto le seul indice sérieux de prévision de ce risque. Par ailleurs, lorsque l'on cherche des facteurs génétiques susceptibles de prédisposer certaines personnes à vivre exceptionnellement longtemps, plus de 95 ou 200 ans, l'un des rares gènes qui correspondent à la définition en est un qui confère un taux naturellement élevé de cholestérol HDL. Si vous remplacez les matières grasses, y compris les graisses saturées, par des glucides, vous diminuez votre HDL et augmentez donc votre risque d'infarctus, au moins en ce qui concerne cet indice de prévision de risque. Pour reprendre mon exemple, si vous remplacez les œufs au bacon de votre petit déjeuner par des cornflakes, du lait écrémé et une banane, votre bon cholestérol HDL va diminuer, tandis que votre risque cardiovasculaire, lui, augmentera. À l'inverse, si vous mangez habituellement des céréales, du lait écrémé et des bananes, et décidez de les remplacer par des œufs au bacon, votre cholestérol HDL va augmenter et votre risque cardiovasculaire diminuer. On sait cela depuis les années 1970. Les conseils que l'on nous prodigue depuis de nombreuses années, baisser notre taux de cholestérol total et de LDL, ainsi que perdre du poids, en mangeant moins de graisses saturées et davantage de glucides, sont en contradiction flagrante avec le conseil que l'on pourrait nous donner pour augmenter notre HDL. HDL qui, comme nous l'avons vu, est un indice de risque cardiovasculaire beaucoup plus fiable. On nous a dit que nous pouvions augmenter notre cholestérol HDL en étant physiquement actifs, en perdant du poids et même en consommant de l'alcool avec modération, mais ce n'est que bien rarement que l'on évoque la possibilité d'obtenir le même résultat en remplaçant les glucides de notre alimentation par des matières grasses. La raison probable pour laquelle la perte de poids est si efficace pour faire augmenter le taux de HDL est que si l'on perd du poids, c'est parce que l'on mange moins de glucides, notamment moins de glucides comptant parmi les plus adipogènes. Et ce, nous l'avons vu, y compris lorsque l'on suit un régime hypocalorique. Par conséquent, le taux d'insuline baisse, la personne perd du poids, et son taux de HDL n'augmente que parce qu'elle a modifié son apport glucidique. Les nutritionnistes et les autorités en charge de la santé publique, qui insistent de façon si résolue pour que nous ayons une alimentation pauvre en matières grasses et riche en glucides, afin d'éviter les maladies cardiovasculaires, reconnaissent pourtant dans d'autres contextes que non seulement les régimes hyperglucidiques font baisser le cholestérol HDL, aggravant ainsi le risque de maladie cardiaque, mais qu'ils le font même de façon si fiable que depuis quelque temps, des chercheurs se fondent sur le taux de HDL des sujets participant à leurs essais cliniques pour déterminer la quantité de glucides qu'ils consomment. Dans un récent article du New England Journal of Medicine, on pouvait lire que le cholestérol HDL est un biomarqueur des glucides alimentaires. En d'autres termes, Si votre taux de HDL est élevé, il y a fort à parier que vous mangiez peu de glucides. Si au contraire votre taux de cholestérol HDL est faible, il est probable que votre alimentation en regorge. En accordant de l'attention à la façon dont le HDL et les maladies cardiovasculaires sont liés, et pas seulement le LDL dit « mauvais cholestérol » et le cholestérol total, on peut apprendre des choses sur les prétendus risques et bénéfices d'aliments, notamment la viande rouge, les œufs au bacon et même le beurre ou le saindoux, qu'il vaudrait peut-être mieux privilégier au lieu des glucides adipogènes. Il est important de comprendre que les graisses contenues dans ces aliments ne sont pas toutes saturées. En fait, ces graisses animales se composent, ainsi que les graisses végétales, d'un mélange de graisses saturées et insaturées, qui, toutes, ont un impact différent sur notre taux de cholestérol LDL et HDL. Prenons l'exemple du saindoux, longtemps considéré comme l'archétype d'une matière grasse extrêmement mauvaise pour la santé. Par le passé, il était employé dans de nombreuses préparations culinaires, notamment dans la moitié nord de la France, avant d'être remplacé en grande partie par des graisses trans, artificielles, dont les nutritionnistes ont découvert qu'elles pourraient en fin de compte favoriser les maladies cardiovasculaires. Lorsque l'on examine la composition nutritionnelle du saindoux, on se rend compte qu'environ la moitié des graisses qu'il contient, 47% pour être exact, sont monoinsaturées, ce qui devrait logiquement le classer dans la catégorie des matières grasses presque unanimement considérées comme bonnes pour la santé. Les graisses monoinsaturées augmentent le taux de cholestérol HDL et diminuent le cholestérol LDL. Deux points positifs à en croire les médecins. Et 90% de ces graisses monoinsaturées se composent du même acide oléique que celui que l'on trouve dans l'huile d'olive. Huile d'olive dont les champions de la diète méditerranéenne chantent les louanges sur tous les tons. Il est vrai que, par ailleurs, le saindoux contient effectivement un peu plus de 40% des graisses saturées. Mais un tiers de celles-ci se compose de l'acide stéarique que l'on trouve dans le chocolat et qui est aujourd'hui également considéré comme une bonne matière grasse, car il augmente le taux de HDL sans avoir d'impact sur le LDL. Un point positif et un point neutre. Les graisses restantes, environ 12% du total, sont polyinsaturées et font donc baisser le taux de cholestérol LDL, sans avoir d'impact sur le HDL. Ici aussi, un point positif et un point neutre. Au total, plus de 70% des matières grasses qui composent le saindoux améliorent donc le profil de cholestérol par rapport à ce qui se passe lorsque l'on remplace le saindoux par des glucides. Et les 30% restants augmentent certes le mauvais cholestérol LDL, mais également le bon cholestérol HDL. En d'autres termes, et aussi incroyable que cela puisse paraître, si vous remplacez les glucides que vous consommez par la même quantité de saindoux, vous réduirez de fait votre risque d'infarctus. Vous acquérez une meilleure santé. Et il en va de même de la viande rouge, des œufs au bacon, ainsi que de pratiquement tous les produits animaux susceptibles d'être mangés en remplacement des glucides qui nous font grossir. Le beurre étant un cas un peu à part car seule la moitié des matières grasses qui le composent améliore réellement notre profil de cholestérol. Notons néanmoins que si l'autre moitié augmente le LDL, elle augmente également le HDL. Examinons à présent les résultats d'essais cliniques dans le cadre desquels on demandait aux personnes recrutées de faire exactement ce que je viens de suggérer, c'est-à-dire de remplacer les glucides adipogènes qu'ils avaient l'habitude de manger par des produits d'origine animale riches en matières grasses et notamment en graisses saturées. Au cours des 10 dernières années, de nombreux essais ont comparé l'impact de régimes à la fois très pauvres en glucides et riches en lipides et en protéines du type Atkins, un régime devenu célèbre lors de la parution en 1972 du best-seller du Dr. Robert Atkins, Dr. Atkins's Diet Revolution, édité en France en 1975 sous le titre « La révolution diététique du Dr. Atkins » et dont une nouvelle version vient de sortir en France sous le titre « Le nouveau régime Atkins ». Avec l'impact de régimes allégés en matière grasse et en calories, tels que ceux que recommande notamment l'Association américaine de cardiologie. Ces essais sont les meilleures études jamais consacrées aux effets d'une alimentation riche en matière grasse et en graisse saturée, à la fois sur le poids et sur les facteurs de risque cardiovasculaire et de diabète. Leurs résultats sont remarquablement convergents. Une partie des sujets participant à ces études étaient autorisés à manger autant de matière grasse et de protéines donc de viande, de poisson et de volaille, qu'ils le souhaitaient, mais devaient éviter les glucides, qui ne devaient pas dépasser au maximum 50 ou 60 grammes par jour, soit l'équivalent de 200 à 240 calories. Ils étaient comparés avec un groupe de sujets devant, eux, non seulement réduire leur apport en calories totales, mais surtout éviter les matières grasses et les graisses saturées. Chez les sujets qui mangeaient essentiellement des matières grasses et des protéines, on constata ce qui suit. Premièrement, ils avaient perdu au moins autant et pour certains beaucoup plus de poids que les autres. De plus, leur taux de cholestérol HDL avait augmenté. Également, leur taux de triglycérides avait considérablement diminué. Ensuite, leur tension artérielle avait baissé. Puis, leur taux de cholestérol total était demeuré à peu près stable. En outre, leur taux de cholestérol LDL avait légèrement augmenté. Et enfin, leur risque d'infarctus avait fortement diminué. Examinons l'une de ces études en détail. Intitulée A to Z, d'après les quatre initiales des régimes étudiés, From A to Z, signifiant par ailleurs de A à Z, cette étude coûta 2 millions de dollars, financée par le gouvernement des États-Unis. Elle fut menée par des chercheurs de l'université Stanford et ses résultats furent publiés en 2007 dans The Journal of the American Medical Association. Elle comparait quatre régimes. Le régime Atkins, A, 20 g de glucides par jour pendant les 2-3 premiers mois, ensuite 50 g, protéines et lipides à volonté. Un régime traditionnel, T, également connu sous le nom de régime LEARN, restriction calorique, les glucides constituant 55 à 60% de l'ensemble des calories consommées, les matières grasses moins de 30% et les graisses saturées moins de 10%, activité physique régulière recommandée. Le régime Ornish, O, moins de 10% des calories issues des matières grasses. Les sujets devaient méditer et faire de l'exercice. Le régime Zone, Z, 30% des calories issues des protéines, 40% des glucides et 30% des matières grasses. Consultez l'annexe tableau numéro 6. Il présente les effets respectifs des quatre régimes sur le poids et les facteurs de risque cardiovasculaire des sujets un an après le début de l'étude. Ce qui ressort de ces résultats, c'est que les sujets qui suivaient le régime Atkins, à qui l'on avait demandé de ne pas se restreindre en termes de quantité de nourriture et de manger de la viande rouge, avec les graisses saturées qui vont avec, à volonté, perdaient plus de poids, voyaient leur taux de triglycérides diminuer davantage, un bon point, leur taux de cholestérol HDL augmentait davantage, un autre bon point, et leur tension artérielle baissait davantage, encore un bon point, que les sujets soumis aux autres régimes étudiés. Voici comment les chercheurs de Stanford se prononcèrent sur les résultats. De nombreuses inquiétudes ont été exprimées concernant les régimes amincissants à faible teneur en glucides et forte teneur en graisse totale et en graisse saturée, dont on craint qu'ils n'influent défavorablement sur les taux de lipides sanguins et le risque cardiovasculaire. Ces inquiétudes n'ont pas été corroborées par les récents essais menés sur différents régimes amincissants. Ces essais récents, et notamment la présente étude, ont systématiquement montré que les taux de triglycérides et de cholestérol HDL, la tension artérielle et le niveau d'insulinorésistance soit ne différaient pas de façon significative, soit étaient plus satisfaisants chez les sujets soumis à un régime très pauvre en glucides. La cheville ouvrière de cet essai était Christopher Gardner, directeur du département de nutrition du Stanford Prevention Research Center. Il présenta les résultats lors d'une conférence intitulée « The Battle of the Weight Loss Diets. Is anyone winning at losing? » La bataille des régimes amincissants, y a-t-il un vainqueur? Qu'il est possible d'écouter sur YouTube. Il débuta son intervention en expliquant que, végétarien depuis 25 ans, il avait voulu mener cette étude parce qu'il s'inquiétait de la possible dangerosité de régimes tels que le régime Atkins, pauvre en glucides, riche en viande et en graisse saturée, et que le triomphe de ce même régime Atkins avait été pour lui difficile à avaler. Le problème du mauvais cholestérol, l'état actuel des connaissances sur le LDL, lipoprotéine de très basse densité. À eux seuls, les essais cliniques que je viens d'évoquer pourraient suffire à calmer les inquiétudes relatives au lien entre le fait de manger beaucoup de matières grasses ou de graisses saturées et le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. Mais il y a encore quelques autres aspects n'ayant généralement pas été examinés dans le cadre de ces essais et qui méritent pourtant eux aussi d'être abordés. Le premier concerne le LDL. Il montre à son tour la façon dont les connaissances scientifiques en matière de maladies cardiovasculaires ont évolué depuis les années 1970. Lorsque l'on commença à thématiser les méfaits du LDL et que les médecins et journalistes de la santé se mirent à le désigner sous le terme de « mauvais cholestérol », la raison en était que l'on croyait que le cholestérol était responsable de la formation de la plaque artérielle. Or, en réalité, le LDL n'est pas du cholestérol. C'est la particule, la lipoprotéine de basse densité, en anglais « low density lipoprotein », d'où LDL, qui contient le cholestérol et le transporte, ainsi que les triglycérides, à travers le système sanguin. L'usage du terme « mauvais cholestérol » est problématique, ne serait-ce que parce que les chercheurs affirment à présent que ce n'est pas le cholestérol transporté par les LDL qui est coupable de favoriser les maladies cardiovasculaires, mais les LDL elles-mêmes, ainsi que d'autres particules similaires. Pour compliquer les choses, les particules de LDL ne sont pas toutes également nocives ou athérogènes, pour employer le terme technique désignant un facteur d'apparition ou d'aggravation de l'athérosclérose. Certaines de ces particules en circulation dans notre corps sont petites et denses, d'autres légères et de plus grande taille. Et il existe également des qualités intermédiaires. Ce sont les LDL petites et denses qui sont athérogènes et qu'il convient donc d'éviter. En effet, elles se déposent sur les parois de nos artères où elles se mettent à former des plaques d'athérome. Les grandes particules légères de LDL seraient, elles, inoffensives. C'est une notion importante car une alimentation riche en glucides ne se contente pas de diminuer le taux de HDL et d'augmenter les triglycérides, mais elle rend également les LDL petites et denses. Et ces trois phénomènes augmentent le risque cardiovasculaire. Tandis que lorsque nous avons une alimentation riche en matières grasses et pauvre en glucides, c'est le contraire qui se produit. Le taux de HDL augmente, les triglycérides baissent, et les LDL qui circulent dans notre sang deviennent plus grandes et plus légères. À la fois séparément et conjointement, ces trois modifications diminuent le risque de souffrir d'un infarctus. C'est-à-dire que ce qui, selon l'état des connaissances scientifiques aux environs de 1970, semblait dommageable, à savoir l'impact des graisses saturées sur le cholestérol LDL, est finalement, selon l'état des connaissances aux environs de 2010, profitable. L'impact des graisses saturées sur la particule de LDL elle-même. Les autorités sanitaires rechignent à aborder publiquement ce sujet, car il contredit une grande partie de ce qui a été dit au cours des 30 à 50 dernières années. Il arrive néanmoins que des chercheurs laissent filtrer les informations, comme l'ont fait Chris Gardner et ses collègues de Stanford lorsqu'ils ont publié les résultats de l'étude A to Z. Deux des résultats les plus constants issus d'essais récents comparant des régimes à faible teneur en glucides d'une part et à faible teneur en lipides d'autre part sont que les premiers entraînent des concentrations supérieures en cholestérol LDL, lipoprotéine de basse densité, et des concentrations inférieures en triglycérides. Bien qu'une concentration supérieure en cholestérol LDL paraisse être un effet négatif, cela peut ne pas être le cas dans ces conditions d'étude. En effet, la diminution des triglycérides due à un régime à faible teneur en glucides entraîne une augmentation de la taille des particules de LDL, augmentation dont on sait qu'elle fait baisser l'athérogénicité. Dans la présente étude, les concentrations moyennes de cholestérol LDL avaient augmenté de 2% et les concentrations moyennes de triglycérides avaient baissé de 30% au bout de 2 mois dans le groupe Atkins. Ces résultats cadrent avec une augmentation bénéfique de la taille des particules de LDL, bien que la taille des particules de LDL n'ait pas été contrôlée dans notre étude. Nul doute que ces résultats aient été difficiles à avaler pour certains. Quoi qu'il en soit, ils confirment que l'alimentation grâce à laquelle nous pouvons perdre du poids, c'est-à-dire une alimentation restreignant les glucides générateurs de graisse, est également celle qui nous protège le mieux des maladies cardiovasculaires. Le syndrome métabolique. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce chapitre, c'est que la peur des graisses, et en particulier des graisses saturées, prend son origine dans l'état des connaissances scientifiques des années 1960 et 1970, mais qu'elle ne résiste pas aux découvertes de recherches plus récentes, ni à l'état des connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Ceci étant dit, il nous reste encore un point très important à aborder. J'ai évoqué précédemment ce qui se passe lorsqu'une personne devient insulino-résistante, c'est-à-dire que les cellules de ses muscles et de son foie, notamment, développe une résistance à l'action de l'hormone insuline. Non seulement cette personne sécrète plus d'insuline en réaction, étant pour cette raison à prendre du poids, et tout particulièrement au niveau de la taille, où les cellules adipeuses sont les plus sensibles à l'insuline, mais elle développe également peu à peu de nombreux autres troubles métaboliques. Sa tension artérielle augmente, ainsi que son taux de triglycérides. Son cholestérol HDL diminue. De plus, les particules de LDL qui circulent dans son sang deviennent plus petites et plus denses. Elle devient intolérante au glucose. Il lui devient donc difficile de contrôler sa glycémie. Elle peut même développer un diabète de type 2 si son pancréas ne parvient plus à sécréter suffisamment d'insuline pour compenser l'insulinorésistance. Ce faisceau de facteurs de risque cardiovasculaire porte le nom de syndrome métabolique, ou dans la langue courante, de syndrome de la Bedaine, et constitue de fait une étape intermédiaire vers les maladies cardiovasculaires. Selon les estimations officielles, plus d'un quart de la population adulte des États-Unis et environ 1 femme sur 6 et un peu moins d'un homme sur 4 en France souffrent aujourd'hui du syndrome métabolique. La raison pour laquelle ces chiffres sont si élevés est que parmi les symptômes du syndrome métabolique, on compte le diabète et l'obésité, qui connaissent actuellement tous deux de véritables épidémies. À mesure qu'un individu grossit, et tout spécialement que son périmètre abdominal augmente, il tend à avoir des difficultés croissantes à maîtriser sa glycémie et risque davantage de souffrir d'hypertension, d'athérosclérose, de maladies cardiovasculaires ou d'AVC. Toutes ces maladies sont liées au même groupe de ce que les spécialistes appellent anomalies lipidiques, à savoir taux de cholestérol HDL bas, taux de triglycérides élevés, LDL petites et denses. Ces anomalies lipidiques sont dues à l'insulinorésistance et à la sécrétion d'insuline accrue qui l'accompagne. Elles sont donc causées in fine par les glucides que nous mangeons et, parmi eux, sans doute surtout par les sucres, saccharose et sirop de glucose fructose. En ce qui concerne le syndrome métabolique, les connaissances scientifiques ont beaucoup évolué depuis la fin des années 1950, époque à laquelle des chercheurs ont établi pour la première fois un lien entre la consommation de glucides et un taux élevé de triglycérides, ainsi qu'entre ce dernier et les maladies cardiovasculaires. Ces liens sont passés quasi inaperçus durant des décennies, pour la simple raison que spécialistes des maladies cardiovasculaires et nutritionnistes étaient littéralement obnubilés par les graisses saturées et le cholestérol. Ils ne voyaient pas de nécessité à explorer des voies alternatives pour expliquer la survenue des infarctus. Ils ne le firent donc pas. La personnalité motrice de la recherche sur le syndrome métabolique a été un médecin de l'université Stanford, Gerald Riven, qui comprit précocement que ce sont la sécrétion excessive d'insuline et l'insulinorésistance qui sont les principaux facteurs à l'origine de toute cette série de troubles métaboliques. Lorsque les autorités sanitaires commencèrent, au milieu des années 1980, à accorder de l'attention aux travaux de Riven, elles rechignèrent à accepter les thèses qu'il avançait, car c'était les glucides, et non les matières grasses, que ses recherches accusaient, comme étant la cause alimentaire des maladies cardiovasculaires et du diabète. Toute personne qui consomme davantage de glucides doit se débarrasser de cette charge en sécrétant plus d'insuline, expliqua Riven au National Institute of Health lors d'une conférence sur le diabète en 1986, avant de présenter des preuves des liens existants entre l'insuline et les maladies cardiovasculaires. À juste titre, le président de la conférence, George Cahill de l'Université de Harvard, déclara au sujet des découvertes de Riven qu'il parlait pour eux. C'est d'ailleurs là que le bât blessait. Et l'un des administrateurs du National Institute of Health, se référant au travail de Riven, le reconnut sans embâge. « Parfois, nous voudrions qu'il disparaisse, car personne ne sait qu'en faire. » Les connaissances scientifiques actuelles sur le syndrome métabolique représentent vraisemblablement la plus grande avancée des 50 dernières années dans la compréhension de ce qui cause des maladies cardiovasculaires et de leurs liens étroits avec l'hypertension, l'obésité et le diabète. Ces connaissances expliquent pourquoi ces trois pathologies augmentent de façon très importante le risque cardiovasculaire et pourquoi, lorsqu'un individu souffre de l'une des trois, il risque d'être également atteint des deux autres. Ce que le syndrome métabolique nous apprend, c'est que les maladies cardiovasculaires et le diabète ne sont pas causés par des facteurs de risque isolés. Un taux bas de cholestérol HDL, par exemple, ou un taux élevé de triglycérides ou des particules de LDL petites et denses, mais par le fait que l'insulinorésistance ainsi qu'un taux élevé d'insuline et de sucre sanguin sème la confusion dans toutes les cellules de l'organisme. En effet, l'insuline agit sur les adipocytes, les cellules adipeuses, pour que nous accumulions de la graisse corporelle. Les adipocytes, en expansion, libèrent alors des molécules, les cytokines de l'inflammation, qui ont des effets nocifs sur notre organisme tout entier. Au niveau du foie, elle induit les transformations des glucides en graisse composée de triglycérides, graisse qui est envoyée dans le sang et là, sur les particules de LDL, qui deviennent alors progressivement petites et denses. L'insuline agit également sur les reins, pour faire monter la tension artérielle, en réabsorbant le sodium, ce qui a le même effet que manger d'énormes quantités de sel, ainsi qu'en affectant la sécrétion d'acide urique, qui s'accumule également dans le sang en quantité préjudiciable à la santé. Un excès d'acide urique dans le sang provoque la goutte, une pathologie également liée à l'obésité et au diabète, et dont l'incidence est elle aussi en augmentation dans les sociétés occidentales. Elle a aussi des effets sur les parois des artères, causant leur durcissement mais aussi une accumulation de triglycérides et de cholestérol dans des plaques athérosclérotiques en formation. Parallèlement, le taux de sucre sanguin chroniquement élevé qui va de pair avec l'insulinorésistance crée un grand nombre de problèmes. Il expose le corps tout entier à un stress oxydant. C'est pour prévenir ou combattre ce stress oxydant que l'on nous répète à l'envi qu'il faut manger des aliments riches en antioxydants. Il entraîne également la création de produits de glycation avancée, ou AGE, des composés toxiques semblant être à l'origine de nombreux phénomènes, du durcissement de nos artères au vieillissement de notre peau, en passant par le vieillissement prématuré induit par le diabète. Pour diagnostiquer un syndrome métabolique, on conseille au médecin de vérifier en premier lieu si le périmètre abdominal de la personne est en augmentation, le syndrome métabolique étant étroitement lié à l'obésité. Étant donné que dire que quelqu'un est atteint d'un syndrome métabolique équivaut à dire qu'il ou elle est insulino-résistant ou insulino-résistante, les spécialistes font porter la responsabilité des deux pathologies aux habitudes sédentaires et à la suralimentation. Pourquoi ? Parce qu'ils croient que les habitudes sédentaires et la suralimentation font grossir. Ils conseillent donc, cela nous est désormais familier, de suivre un régime allégé en matière grasse, parce qu'ils s'inquiètent du risque cardiovasculaire accru qui accompagne le syndrome métabolique, de manger moins et de bouger plus, parce qu'ils pensent que c'est ainsi que l'on perd du poids. Faisons appel au bon sens. Comme le disait Riven il y a déjà un quart de siècle, ce sont les glucides qui augmentent le taux d'insuline. Nous savons maintenant que les glucides nous font grossir, et il a été démontré dans de nombreux essais cliniques que les régimes à faible teneur en glucides et à forte teneur en matière grasse amélioraient toutes les anomalies d'ordre métabolique et endocrinien inhérentes au syndrome métabolique. Taux de cholestérol HDL bas, taux de triglycérides élevés, LDL petites et denses, tension artérielle élevée, insulinorésistance et taux d'insuline chroniquement trop élevé. Tout cela suggère donc à l'évidence que les glucides qui font grossir sont également ceux qui causent le syndrome métabolique et indiquent que, de même que pour l'obésité et le surpoids, le meilleur et peut-être le seul moyen de traiter cette pathologie est d'éviter les aliments riches en glucides et tout particulièrement ceux que l'on digère facilement ainsi que les sucres. Le syndrome métabolique, épisode 2. Pour bien comprendre les liens qui existent entre les glucides et le syndrome métabolique, il est nécessaire de préciser encore quelques points. Il s'avère que la maladie d'Alzheimer ainsi que la plupart des cancers, y compris ceux du sein et du côlon, sont eux aussi liés au syndrome métabolique, à l'obésité et au diabète. Ce qui implique que plus quelqu'un est gros, plus il ou elle risque d'être atteint ou atteinte d'un cancer, mais aussi, en prenant de l'âge, de démence. Des chercheurs étudient depuis quelque temps les mécanismes à travers lesquels l'insuline et une glycémie élevée pourraient être à l'origine des détériorations cérébrales symptomatiques de la maladie d'Alzheimer. Certains chercheurs appellent même désormais Alzheimer le diabète de type 3, ainsi que la façon dont une glycémie élevée, l'insuline et l'hormone IGF, ou facteur de croissance analogue à l'insuline, stimulent la croissance des tumeurs et la production de métastases. Le lien entre le cancer et le syndrome métabolique est désormais suffisamment admis pour que des recommandations de santé publique fondées sur cette notion aient déjà été formulées. En 2007, le World Cancer Research Fund, réseau mondial de recherche sur le cancer, et l'American Institute of Cancer Research publièrent conjointement un rapport de 500 pages intitulé « Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer » « Alimentation, Nutrition, Activité physique et Prévention du cancer ». Coécrit par une vingtaine d'experts, ce rapport analyse les données qui lient alimentation et cancer et montre que le lien le plus convaincant va de l'alimentation, en passant par une adiposité corporelle accrue, vers les cancers colorectales, de l'œsophage, adénocarcinome, du pancréas, du rein et du sein, post-ménopause, ainsi probablement que le cancer de la vésicule biliaire. Ce rapport dispense également des recommandations pour se prémunir du cancer. La première est être aussi mince que possible et éviter de prendre du poids et de laisser augmenter son tour de taille à l'âge adulte. La seconde est être physiquement actif, active, au quotidien. Les experts auteurs du rapport croyant que l'activité physique protège contre la prise de poids, le surpoids et l'obésité, et ce faisant protège aussi contre le cancer. Et la troisième est limiter sa consommation d'aliments très énergétiques et éviter les boissons sucrées. Ces mesures étant également considérées comme permettant de prévenir et de contrôler la prise de poids, le surpoids et l'obésité. La première de ces recommandations est désormais pratiquement inattaquable. Si vous êtes mince, votre risque d'être atteinte d'un cancer est moins élevé que si vous êtes obèse. Mais attention, comme le mentionne le rapport, ceci ne veut pas dire que l'embonpoint est une des causes du cancer. Les secondes et troisièmes recommandations, qui se fondent sur la croyance que l'on grossit parce que l'on consomme plus de calories que l'on en dépense, ne sont en revanche pas aussi incontestables. Si les experts qui ont rédigé le rapport s'étaient intéressés tant soit peu aux mécanismes de l'accumulation des graisses, dont on ne trouve aucune mention dans les 500 pages que compte le rapport, ils n'auraient pu que conclure à l'évidence, c'est-à-dire que les glucides qui nous font grossir sont également ceux qui, en fin de compte, sont à l'origine de ces cancers. Des connaissances actuelles présentées dans ce chapitre il ressort que la façon la plus simple de considérer les nombreux liens qui existent entre obésité, maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, syndrome métabolique, cancer et maladie d'Alzheimer, sans parler des autres pathologies également associées à l'obésité et au diabète que sont la goutte, l'asthme et la stéatose hépatique, est la suivante. Ce qui nous fait grossir, c'est-à-dire la qualité et la quantité des glucides que nous consommons, nuit également à notre santé. Cet argument manque passablement de fondement si les féculents, les glucides raffinés et les sucres nous font grossir. Car comment pourrait-on plaider en faveur d'une stratégie autre que la suppression de ces aliments pour régler le problème ? Lorsque les médecins nous conseillent d'arrêter de fumer parce que les cigarettes provoquent cancer du poumon, emphysème et maladies cardiovasculaires, ils ne se demandent pas si la vie nous paraîtra moins belle sans tabac. Ils veulent que nous soyons en bonne santé et partent du principe qu'avec le temps, nous nous habituerons à cette perte. Nous savons sans aucun doute possible que certains glucides nous font grossir. Il est probable qu'ils provoquent même un grand nombre de maladies chroniques, comme nous le verrons plus loin. Il n'est donc que logique de les supprimer. Si vous perdez du poids, vous réduisez toutes les calories équitablement et si vous diminuez surtout les calories d'abaduc. Par ailleurs, alors qu'un régime qui supprime les sucres, la farine, les pommes de terre et la bière, mais autorise la viande, les œufs et les légumes verts à volonté, apporte tous les nutriments essentiels. Depuis les années 1960,